La capsule.
Allô.
Le coup de fil à un ami.
Allô.
Au signal, veuillez dicter votre message.
J'ai entendu dire que les satellites étaient venus en aide au Japon le 11 mars. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Celui qui sait, c'est André Husson, représentant du CNES pour la charte internationale Espace et catastrophes majeures.
Allô ?
Allô, André ?
Oui ?
Est-ce que tu peux m'expliquer comment l'aide satellite s'est organisée suite au puissant séisme du 11 mars dernier au Japon ?
Le séisme a eu lieu en gros 7h du matin à l'heure de Paris, et moins d'une demi-heure après, le cabinet office, donc le Premier ministre japonais, a demandé à la JAXA, l'agence spatiale japonaise, de déclencher la charte. Ce qui veut dire que moins d'une heure après, la charte était déclenchée, et donc les premiers satellites étaient programmés pour prendre des images sur la zone touchée. Avant même de recevoir la demande officielle, le CNES avait demandé à Spot Image, enfin maintenant on dit Astrium Geo Information Service, hein, de programmer en urgence des images POT 5 à 2,50 m. Et donc on a travaillé sur la région de Sundai, la grosse ville de 1000 habitants qui était ravagée par des vagues de 10 mètres de haut. Mais aussi on a amélioré, peaufiné la zone d'acquisition pour couvrir les fameuses centrales nucléaires, donc de Fukushima et de Kamayashi plus au nord.
Comment les secours sur le terrain utilisent-ils ces données satellites ?
Alors, bien sûr, ces images brutes sont tout à fait inexploitables par les gens de la sécurité civile sur le terrain. C'est un peu comme si je vous montrais une radiographie des poumons. Pour les non-spécialistes, c'est difficile d'interpréter. Donc ces images sont traitées, analysées et traduites en cartes par une société qui est à Strasbourg, qui s'appelle le CERTIT. Donc ces satellites partent, reçoivent les images spot acquises dans ce cas de catastrophe, les interprètent, les transforment en cartes directement assimilables, les mettent sur leur propre site à Strasbourg, sur leur site web, hein, site sur lequel les autorités japonaises viennent prendre les informations nécessaires qui les intéressent.
Quelles informations les cartes du CERTIT ont-elles permis de révéler ?
Les premières cartes qui ont été faites ont donc été faites avant tout avec du image spot 5, ce qui veut dire qu'elles sont juste suffisantes pour étudier les effets des tremblements de terre, mais par contre sont tout à fait adaptés à étudier les effets du tsunami, donc des différentes vagues, hein, et donc ont permis de déterminer les zones qui ont été touchées par ces vagues monstrueuses. Et en particulier, on s'est rendu compte, ce que ne connaissait pas la sécurité civile japonaise, que sur en gros 5 km de fond, de profondeur, les vagues ont tout détruit sur leur passage. C'est-à-dire que jusqu'à une altitude de en gros 3 mètres, 3,50 m, tout a été ravagé. C'est une information dont ne disposaient pas les autorités japonaises. Et maintenant, dans un second temps, à partir des images très haute résolution mises à disposition par les Américains, les équipes françaises, donc du CERTIT, hein, vont analyser les secteurs de façon plus précise pour donner ces informations aux équipes de la sécurité civile française qui ont été envoyées sur place.
Quel intérêt présente le satellite par rapport à l'avion ou l'hélicoptère pour ce type d'image ?
Couvrir des zones de 400 km de long sur 100 km de large avec un hélicoptère ou un avion, c'est quand même pas chose simple. Alors qu'avec une belle trace de satellite, on couvre l'ensemble de la zone qui nous intéresse. Et puis surtout, on y revient le lendemain, et encore le lendemain, et encore le lendemain, ce qui permet d'avoir une information précise qui permet aux équipes sur le terrain de mieux organiser les secours.
Merci André Husson.
Ah merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Plateforme. 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 Voilà un mot bien étrange. Il semble vouloir réconcilier l'inconciliable. D'un côté le plat, morne et horizontal, et de l'autre la forme, celle qui marque l'œil, retient l'attention et caractérise ce dont elle délimite les contours. Dans le domaine spatial, la plateforme désigne la partie d'un satellite qui va héberger et servir les instruments scientifiques. En fait de forme plate, la plateforme est généralement cubique. C'est à l'intérieur de ce cube, ou sur ses parois, que vont se greffer les instruments scientifiques qui justifient la mission, la fameuse charge utile. Quelle prétentieuse, celle-là! Comme si les services que rendait la plateforme n'étaient pas eux aussi des plus utiles! Au décollage, c'est la plateforme qui, faisant rempart de son corps, encaisse le plus gros des vibrations transmises par le lanceur. Une fois dans l'espace, c'est encore la plateforme qui a la charge de ne pas perdre le nord. Elle doit toujours veiller à son attitude et s'orienter correctement, afin que la charge utile puisse effectuer sa mission. La plateforme doit aussi assurer l'intendance et passer les plats, sous forme d'énergie électrique générée par ses panneaux solaires. Quelle que soit la température extérieure, en plein soleil ou dans la nuit glaciale de l'espace, c'est encore la plateforme qui dorlote la charge utile, la maintenant dans une gamme de température où elle peut travailler. Décidément, il en faut des qualités pour être une simple plateforme. Voilà qui ne manque pas de relief.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Le premier d'entre nous. C'est l'histoire d'une jeune fille d'Union soviétique qui décide de rompre avec son fiancé parce que ce dernier affirme, avec trop de fougue et d'assurance, qu'à l'âge cosmique, il n'y a plus de place pour les vieilleries démodées que sont l'art, la musique ou la poésie. Portée à l'attention des lecteurs de la Pravda à la fin de 1960, la mésaventure des deux amants enflamme les esprits. Croyez-vous vraiment, demande la jeune fille, que l'on doive envoyer l'art au diable et réduire l'amour à sa plus simple expression? Un ingénieur réplique « Ce sont les sciences et les mécaniques qui donnent son vrai visage à notre époque. Nos vies sont orientées non par l'émotion, mais par la force créatrice de la raison. Nous sommes touchés par la poésie des idées, des théories, des expériences et des constructions. » Et l'ingénieur poursuit « Nous n'avons plus le temps de pousser des soupirs en disant « Oh Bach, oh Mozart !» Ces artistes ont été dépassés. Les histoires les plus envoûtantes naissent actuellement de la science et des arts appliqués, de l'intelligence froide, précise, audacieuse. Et l'ingénieur de conclure « Laissons l'art aux dilettantes !» Les semaines passent, l'ardeur de la polémique ne diminue pas. Jusqu'à ce fameux 12 avril 1961. Ce jour-là, Youri Gagarin, à bord de son vaisseau spatial Vostok, accomplit le premier tour du monde en moins de 2 heures. Il est accueilli à son retour comme un héros de l'Union soviétique. Il donne la victoire à la science et à la technique humaine sur les chaînes de la pesanteur et l'effroyable vide cosmique. À jamais illuminé de son extraordinaire sourire, il devient le premier d'entre nous à rejoindre l'espace. Mais le plus beau est sans doute le mot qu'il prononce depuis l'orbite terrestre. « Quelle est belle !» dit-il en admirant notre Terre. La jeune fille peut être rassurée. Avec ces mots si simples, Gagarin a su emmener avec lui cette part d'humanité qui ne se contente pas de savoir et de pouvoir, mais qui toujours s'émerveille, rêve, imagine. 50 ans déjà depuis ce jour. Gagarin a disparu, et avec lui, disent les esprits chagrins, le souffle des pionniers, le goût pour l'aventure. Ne serait-ce pas pour avoir un peu trop vite oublié le sourire et l'enthousiasme du héros soviétique? La nostalgie n'est bonne conseillère qu'à la condition d'être débarrassé de toute médiocrité, de tout esprit revanchard, et d'être enraciné dans le terroir d'une humanité épanouie et d'une vraie confiance en son avenir. Et si nous faisions en sorte que la voie ouverte par Gagarin ne se referme pas?
Alors, allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma
voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre.
Et qui c'est qui va aller sur
c'est
le terrain?
Daniel qui a raison, le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là, en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre? C'est qui a les clés?
Allez, à la prochaine.